Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Fabrique de la Culture, une émission pour parler du spectacle vivant à Bourg-en-Bresse et dans les environs. Tous les mois, une thématique fil rouge nous emmène à la rencontre des artistes d'ici et d'ailleurs. Laissez-vous guider par l'équipe de La Fabrique. Ce soir, Catherine Léger et Michel Béraud m'ont accompagnée sur cette route sinueuse de la création artistique. Cette saison, on a remarqué que les spectacles faisaient souvent beaucoup référence à des faits historiques, au théâtre de Bourg, au Célestin, mais en musique aussi avec des artistes engagés. L'histoire et l'actualité inspirent les artistes. On a donc voulu en savoir plus sur la relation qu'entretiennent les arts vivants et l'histoire. Rencontre avec l'équipe du spectacle Avant la nuit autour de la déportation, avec Guillaume Bertrand et les artistes circassiens de Tarquise, et focus sur le chanteur Marc Navarro. Amour sont au programme de cette émission.
Radio B, Radio B.
La liste de Schindler, le jour le plus long, Dunkerque, il faut sauver le soldat Ryan, le pianiste, la vie est belle, Stalingrad, la grande vadrouille ou Papy fait de la résistance au cinéma, un sac de billes, si c'est un homme, les mains du miracle, les déferlantes, la douleur en littérature. La Seconde Guerre mondiale est une source d'inspiration inépuisable pour les créateurs et créatrices contemporains, mais elle n'est pas la seule période historique à inspirer et nourrir le milieu artistique. Se pose alors la question. L'art peut-il servir l'histoire? Autrement dit, quel rôle joue l'artiste, le créateur? Est-il un documentariste, un historien? Dès lors qu'il introduit sa propre interprétation, le passeur d'histoire peut-il éviter d'être un casseur de la grande histoire? Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Du côté du théâtre, que peux-tu en dire?
Eh bien, le théâtre est bien sûr un raconteur d'histoire. Ça peut prendre classiquement la forme de drames historiques, romantiques, comme on les aimait au XIXe, ou de reconstitution d'événements particuliers. Bon, alors c'est vrai qu'aux grands les grands récits mythologiques, ils sont davantage l'occasion d'explorer les grands sentiments, hein, l'honneur, l'ambition, la justice, etc., que de relater fidèlement des faits historiques. Mais le théâtre, ça peut être aussi le simple témoignage, le récit d'un acteur qui a vécu ce qui a fait l'histoire. Ce simple témoignage qui se passe des grands effets, des gros moyens, pour faire passer toute la force d'événements qu'on ne peut nommer parce que ces événements nous dépassent par leur cruauté, par leur ampleur ou par leur inhumanité. Le théâtre de Bourg propose en novembre un tel spectacle témoignage. Ce spectacle s'appelle « Avant la nuit ». C'est une création de la Compagnie du bord de l'eau qui est installée du côté de Nantua depuis 2009. Il reprend le témoignage personnel d'une femme déportée d'un hameau du Bugey. Nous avons rencontré les deux artistes de plateau, Sophie Houdebourg, comédienne, et Thierry Cutel, musicien. Et ils nous parlent de « Avant la nuit » et de cette femme qui a livré son témoignage, Rose Deville.
Rose Deville, c'est une bergère de moutons, comme elle se décrit elle-même. Elle est née dans un hameau minuscule au-dessus de Mataflon, sur un petit plateau. Son village, à l'époque, c'était 7 fermes, je crois. Tout petit hameau, 7 jeunes gens comme elle, c'est-à-dire entre 20 et 22 ans. Et ce hameau avait la particularité de ne pas avoir de route. Donc on pouvait y accéder par 2 chemins forestiers et il descendait le lait avec une tyrolienne jusqu'à la route. Donc il était très isolé. C'est pour ça qu'il a été choisi pour abriter des résistants, enfin, c'est-à-dire des réfractaires d'abord, c'est-à-dire des jeunes qui ne voulaient pas partir en travail
obligatoire,
en STO. Donc ils sont été cachés dans le village, dans la forêt au-dessus du village et dans les fermes quand ils étaient malades, quand il faisait trop froid, voilà. Et voilà, et Rose, tout naturellement, comme l'ensemble des habitants de Chouja, a aidé à nourrir ces jeunes gens pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont arrivés à partir de 1942, ça c'est su. Et les miliciens et les SS sont arrivés par surprise à Chouja et ont raflé les jeunes gens, donc les 7 jeunes gens, dont Rose. Ensuite, direction Lyon pour aller rencontrer Barbie à Montluc, voilà. Et puis le trajet obligatoire à l'époque, Compiègne, et puis elle a été déportée donc à Ravensbrück d'abord et dans un petit camp à Zwodau à côté de Ravensbrück.
Elle a survécu au camp.
Elle a passé 11 mois dans les camps en passant un hiver. Et elle a survécu, oui. On imagine que c'était d'abord parce que c'était une femme extrêmement vivante. Et elle avait une condition physique exceptionnelle venant de Jouja. Elle était rompue aux conditions un peu extrêmes. Bon, elle a quand même énormément souffert, évidemment, mais elle a pu tenir le coup et revenir vivante, oui. Et sur les 7 personnes qui sont parties de Jouja, et il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas revenue.
Donc ensuite, elle a témoigné sur son expérience des camps.
Elle est restée un long moment silencieuse, comme beaucoup de gens qui sont revenus des camps. Et puis après, elle a pris la parole, et puis elle n'a cessé de rencontrer des jeunes pour partager son expérience et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus.
Donc c'est un texte qu'elle a écrit tardivement, après avoir témoigné
ou... Non, ce n'est pas des textes qu'elle a écrits, c'est des retranscriptions de rencontres auprès de collégiens. Donc avec vraiment une langue très vivante, qu'on a respectée d'ailleurs à la virgule et aux hésitations près, pour rendre les choses telles qu'elle les annonçait, enfin telles qu'elle les faisait partager.
Et pourquoi le choix de ce texte, de cette femme, alors qu'il y a d'autres textes qui ont raconté le vécu des camps?
Oui, c'est un vrai coup de cœur, un coup de foudre. Quand on est tombé sur ce texte, on travaillait donc au musée de la résistance et de la déportation à Nantua. Pour un tout autre projet, on cherchait des matériaux pour travailler et on est tombé sur cette transcription donc de cette rencontre qu'il y avait eu au musée avec des collégiens. On l'a lu et ça a été le coup de foudre. Parce que Rose est une superbe conteuse et que malgré qu'elle soit bergère de moutons, quoi qu'ensuite elle a quand même gravi quelques échelons, elle s'est aussi éduquée. Donc d'ailleurs, qui fait très attention à utiliser le mot juste, et ça nous en tant que gens de théâtre, eh bien on apprécie évidemment. Elle est donc une excellente conteuse. Elle essaye d'être le plus proche possible de la notion de témoin, c'est-à-dire de ne pas donner ni son avis, ni son analyse de la situation, mais juste son vécu. Alors évidemment, encore une fois, en tant que gens de théâtre, on a été très intéressés. Et pour finir, c'est une personnalité juste très attachante. Elle est très drôle, extrêmement vivante, très intelligente. Voilà, elle nous a tapé dans l'œil.
Ce spectacle s'appelle « Avant la nuit ». Pourquoi ce titre? C'est quoi cette nuit?
Rose, à la fin de son intervention, et puis apparemment elle avait coutume de dire ça, c'est qu'elle disait « Maintenant, y a-t-il des questions? Allez-y, moi, il faut juste que je sois rentrée avant la nuit. » Parce qu'elle conduisait encore à l'époque, mais c'était quand même un petit peu difficile pour elle de conduire la nuit. Donc on a repris cette chose-là, qui peut se comprendre après de multiples façons, mais c'était
nuit
une belle...
Nuit et brouillard, c'est la même nuit que
oui,
nuit et brouillard.
Pensé, voilà, on y a évidemment pensé. Et puis elle est rentrée in extremis, 2-3 jours de plus, et c'était certainement la grande nuit pour elle.
Avant la nuit, retrace une histoire récente, mais les témoins directs sont maintenant très âgés ou morts, et pour les générations les plus jeunes, ce qui s'est passé il y a plus de 70 ans est trop loin et trop différent aussi de ce que nous vivons actuellement pour bien comprendre le contexte. Alors en même temps... nous ici en France, nous ne vivons pas ça. Beaucoup de peuples le vivent cruellement un peu partout dans le monde. Et de plus en plus, je pense en particulier à l'Amérique du Sud et ses grands pays. La qualité du témoignage de Rose de Ville, c'est de nous raconter ces temps particuliers qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, des vies simples, dépourvues d'héroïsme, et que vivent donc nos compatriotes de la planète, je dirais. C'est ce qu'expliquent Sophie Audebourg et Thierry Cutel, les deux comédiens d'Avant la nuit.
Elle est très précise par rapport au fait historique. Elle replace elle replace suffisamment dans le contexte historique pour qu'on puisse suivre sa mésaventure. Donc, on n'a pas eu besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc, nous, on a été absolument fidèles à ce texte. Alors, comme disait Thierry, à la virgule près, à l'hésitation près. Et on a décidé de jouer le temps de la rencontre, en fait, qui avait été donc enregistrée puis retranscrite. On ne joue pas le passé, on joue le présent de la rencontre de 2011.
Vous interprétez Rose de Ville quand elle témoigne.
Exactement.
Et donc quel est le rôle du musicien, puisque Thierry Gutel, vous êtes le musicien sur scène.
Le rôle de la musique, et peut-être on pourra parler aussi un peu de la vidéo, c'était autour des mots de Rose d'amener quelques contrepoints ou des respirations à certains moments. Parce que même si, comme disait justement Sophie, Rose, elle prend beaucoup soin de son auditoire, c'est-à-dire qu'elle elle raconte son aventure avec ce qu'on peut imaginer de moments terribles, mais à chaque fois avec énormément de pudeur, on pourrait dire. Mais quand même, au détour de certaines phrases, il nous semblait intéressant qu'il y ait des respirations ou qu'il y ait des choses qui amènent un peu ailleurs. Et la musique et la vidéo semblaient de bonnes pistes.
Oui, et c'était aussi une façon de nous-mêmes, en tant qu'artistes, de poétiser ce témoignage qui est très, qui est très réaliste, évidemment. Il nous fallait trouver une forme pour s'emparer de ce texte. Donc on a choisi la musique. Et puis sur le plateau, je dirais que Thierry, tu interprètes le compagnon absent de Rose.
Oui, c'est ça. Il y a aussi une part de texte, parce que Rose se déplaçait avec un monsieur Jacquet, et assez vite on a fait cette association-là aussi.
Et alors sur la vidéo ?
Et la vidéo, donc Olivier Bignon qui a fait les images, est parti le temps où on répétait dans la nature autour de Chouja, pour prendre des images, et à différents, on a répété pendant assez longtemps, donc il y a des images qui sont issues des quatre saisons. Et qui apparaissent dans le spectacle aussi à des moments précis, des moments clés comme ça, et qui font des sortes de métaphores ou de respirations, enfin, qui poétisent aussi, et qui amènent aussi Chouja et l'endroit d'où est partie Rose. Enfin, il y a quelque chose qui fait que ça recentre autour de la vie et du point de départ de cette aventure. Je ne sais pas comment dire, Sophie.
Enfin, on ne voulait surtout pas traiter des images d'archives. Parce qu'elles sont très dures, qu'on n'avait pas l'intention de partir dans une représentation des événements, mais plutôt dans ce qu'un humain, Rose, a pu vivre. Du coup, ça nous a semblé une belle image que de cette bergère de moutons qui avait été pétrie de sa terre, qui avait grandi dans cette terre-là, qui en était, je pense, complètement imprégnée. Ça nous a semblé une belle image que de montrer son parcours intérieur à travers des paysages qui pouvaient se geler ou devenir terriblement froids au fur et à mesure de la saison qui avançait et de son histoire aussi.
Thierry Gutel, vous avez évoqué tout à l'heure les interventions de Rose de Ville et pour justifier le titre, le fait qu'elle proposait à son public de poser des questions.
Parce qu'on lui pose des questions, oui.
Est-ce qu'il y avait des questions, d'une part, dans les retranscriptions, est-ce que ça apparaît ? Et surtout, est-ce que vous proposez à la fin au public de poser des questions ?
Rose avait effectivement des questions qu'on a retrouvées. Dans la représentation, à la fin, on donne à entendre les questions, enfin en tout cas, quelques-unes des questions qui étaient posées à Rose.
D'ailleurs, je crois que je te coupe, mais il me semble qu'on n'entend pas les questions parce que l'enregistrement est terriblement mauvais. Donc on les devine, on entend les réponses, mais pas les questions. Mais nous, non, on ne demande pas s'il y a des questions. Ce qui nous a vraiment touchés avec ces histoires de questions, c'est que ça raconte beaucoup en réalité. Les gens qui sont apparemment, c'est commun à tous ceux qui sont rentrés des camps de déportation. Ils n'ont pas pu raconter leur histoire pendant très longtemps, c'était inaudible. Ou quand ils racontaient leur histoire, Souvent, ils étaient mal compris, ou absolument pas compris ce qui est arrivé à Rose, qui s'est sentie incomprise très longtemps, qui donc a fini par se taire rapidement. Et qui est restée, je pense, toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle décide de témoigner, avec une grande frustration de ne pas partager cette histoire. Et quand on l'a entendu, vu, demander encore des questions, demander à encore raconter, être si réjoui de l'intérêt qu'on portait à cette histoire, ça nous a touchés. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a introduit les questions dans le spectacle.
Sophie Hautebourg, est-ce que le spectacle a été conçu pour s'adresser à des classes ?
Il n'a pas été spécialement conçu dans ce sens-là, parce qu'on ne savait pas trop où on allait au début des répétitions. Bon, on avait une petite idée, mais on avait beaucoup de réserves, on y était prudemment. Mais il est vrai que ce témoignage, s'adressant à des collégiens, eh bien, il s'est trouvé que il pouvait encore être entendu par des collégiens, même dit par des comédiens. Quoique, on a coupé quelques passages un peu plus difficiles à entendre, trop durs, mais surtout parce que quand Rose en parlait de ces anecdotes terribles, elle avait, la légitimité pour le faire. Et que nous, dans notre bouche et sur scène, sur un plateau de théâtre, eh bien, c'était trop spectaculaire. Et ça devenait un peu, mais beaucoup trop pour nous, un peu sensationnaliste. On ne voulait pas non plus profiter, j'allais dire, comme sur le plateau, de ce genre d'effet. Moralement, on ne pouvait pas. Les collégiens étant plus sensibles, évidemment, et puis ils découvrent complètement cette histoire, on a coupé quelques passages.
Merci Sophie Hautebourg, merci Thierry Cutel.
Merci.
Bon, alors la comédienne Sophie Hautebourg évoque là la difficulté des victimes, et donc de Rose de Ville, de témoigner de l'au-delà de l'horreur, de témoigner de l'impensable, parce que c'est trop insupportable pour eux d'y revenir, et puis plus encore, peut-être trop violent à entendre pour ceux qui les écoutent. Combien, revenus des camps nazis, combien, revenus de la guerre d'Algérie, ont pu raconter et se faire comprendre, et comprendre eux-mêmes ? Certains auteurs y sont parvenus, leurs ouvrages sont des références majeures, comme « Si c'est un homme » de Primo Levi, que tu as cité tout à l'heure, et il le dit, pour moi à lire absolument, ou bien « L'espèce humaine » de Robert Antelme. Rose de Ville, avec la témoignage de son récit, la richesse de son récit, ses qualités de conteuse et sa pudeur aussi, participe à ce travail de faire savoir. La Compagnie du bord de l'eau et son spectacle Avant la nuit fait vivre ce récit sans jouer la reconstitution des camps, avec la difficulté de bien doser l'expression des sentiments, de trouver le ton juste quand il s'agit de raconter des choses aussi fortes quand on ne les a pas vécues soi-même, puis la difficulté aussi de respecter le texte et les intonations au plus près, tout en livrant, avec ménagement, des propos extrêmement durs, voire même en les taisant.
Pour vous faire une idée, le spectacle Avant la nuit est programmé par le Théâtre de Bourg le 9 novembre à Saint-Julien-sur-Ressouze, le 16 à Vona, le 22 à Pondin, le 24 à Tréfort et le 25 novembre à Saint-Rambert-en-Bugey. C'est à partir de 13 ans.
J'ajoute que la Compagnie du bord de l'eau, outre un spectacle jeune public qui tourne, propose une nouvelle création sous la forme d'une visite théâtralisée d'une exposition autour de l'alimentation des ménages sous l'occupation allemande dans les années 40. Ça se passe au musée de la Résistance de Nantua.
À la mi-décembre, le haut commandement allié pousse la division française jusqu'au front, dans un secteur particulièrement difficile et glacial, et lui demande, à titre d'essai, de s'emparer d'une montagne abrupte et fortifiée, le Pantano. En deux jours d'assauts incessants, les tirailleurs marocains du 5e régiment, au prix de très lourdes pertes, enlèvent ce sommet. Sur les 13 000 soldats français qui viennent ainsi de prendre leur baptême du feu dans les Abruzzes, il y a 7 000 marocains.
Bonsoir, je reçois Guillaume Bertrand de la compagnie du 13e quai pour parler de Tarkiz, sa dernière création. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Le spectacle Tarkiz plonge ses racines dans notre passé franco-marocain. Il s'inspire de l'histoire des tirailleurs marocains présents à Bourg-en-Bresse pendant une trentaine d'années. Pourquoi cette envie de s'inspirer de faits historiques pour une création artistique ?
Je pense qu'à notre époque, c'est extrêmement important de se rappeler de ces choses-là qui unissent nos deux communautés, de part et d'autre de la Méditerranée, et dans des valeurs qui sont extrêmement fortes dans la coopération et le vivre ensemble entre les humains. Dans cette histoire-ci spécialement, puisque tout le monde était réuni autour de l'adversité, face à l'adversité de la guerre et la difficulté qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Et c'est une histoire qu'on connaît un peu tous indirectement. On a tous un peu des notions de qu'est-ce que c'est que la Deuxième Guerre mondiale. Et pour autant, les détails de cette histoire et de cette humanité qui sont vraiment dans cette partie de l'histoire-là, on les a complètement oubliés et on se rappelle souvent la noirceur et peu les choses qui sont finalement extrêmement positives dans le lien fort qu'il y a entre nos deux communautés franco-marocaines.
Et pour trouver ce lien, ces valeurs, comment avez-vous procédé en amont de la création ?
Je travaille avec l'École nationale du cirque Chemsi depuis 2009. Et depuis ce moment, j'ai rencontré des Marocains ici à Bourg-en-Bresse qui me disaient « Ah bah tiens, je viens de là-bas, ouais, c'est vachement bien et tout ça. Bon. » Et je ne comprenais pas ce qui me reliait moi-même en tant qu'artiste à ce territoire de l'autre côté de la Méditerranée et ce qui était ce lien étrange qu'il y avait avec Bourg-en-Bresse. Et au final, j'ai découvert un jour qu'il y avait cette... à la caserne Aubry à l'époque, qui est aujourd'hui la SEMCODA, il y avait un régiment qui s'appelle le 5e régiment de tirailleurs marocains, qui en fait était en garnison. Et j'ai tiré le fil de cette histoire et c'est devenu une grosse pelote. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, avec des archives, des rencontres avec des témoins, des descendants de tirailleurs, même on a rencontré à Casablanca un ancien tirailleur marocain et il a pu nous raconter son histoire. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai déroulé ce fil-là, je me suis vraiment rendu compte de la force et du lien qu'il y avait aussi avec nos pratiques dans les arts du cirque. Vous comprendrez qu'un porteur doit faire prendre soin de son voltigeur quand on fait des portées acrobatiques, ou un voltigeur doit respecter aussi son porteur parce qu'il lui monte dessus, et puis s'il n'est pas sympa, le porteur, il le lâche. Et donc il y a vraiment des liens assez évidents et pourtant invisibles entre la pratique des arts du cirque dans le fond et la philosophie de cette pratique-là et les arts guerriers de cette histoire.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites respect porteur-voltigeur? J'arrive pas à faire le lien avec ce qui se passe en fait sur un champ de bataille.
Alors sur un champ de bataille, en fait, c'était le 5e régiment de tirailleurs marocains. Déjà, il faut se dire que c'était l'armée française. Donc les Marocains qui étaient dans cette armée-là étaient dans l'armée française. Ils n'étaient pas une armée marocaine. À cette époque, au moment dont on parle dans le spectacle, donc pour la Deuxième Guerre mondiale, le Maroc à l'époque est sous protectorat français. Donc ça veut dire que l'administration française et le sultanat marocain travaillent ensemble à la mise en place de la voirie, d'administration, de différentes choses sur le territoire marocain, sous tutelle française quand même, parfois un peu dure, parfois pas. Bon, y a plein de choses, je ne détaille pas maintenant, mais il y a plein de choses dans l'histoire qui sont plus ou moins lumineuses ou plus ou moins sombres, merci la France à des moments, mais pour autant il y a une véritable coopération entre les deux pouvoirs en place avant la guerre. Le sultan en 1939, il a appelé son peuple à s'engager pour libérer la France et l'Europe de l'ennemi qui à l'époque était l'Allemagne nazie. Et là, il y a 9000 Marocains qui se sont engagés pour aller libérer la France. Donc tous ces jeunes Marocains, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, se retrouvent dans l'armée française, aux côtés de Français, mais également aussi aux côtés des tirailleurs algériens, des tirailleurs tunisiens, des Sénégalais, de plein d'autres communautés de l'armée d'Afrique, qu'on retrouve dans cette même armée complètement métissée. Et à ce moment-là, on est sur le champ de bataille, qu'on soit musulman, chrétien, français, marocain, algérien ou n'importe quelle autre communauté du monde réunie pour cette même cause, on est tous face à l'ennemi et on est tous solidaires et frères. Et il n'est pas question d'avoir du racisme ensemble ou du on ne sait pas qui c'est et puis de la méfiance. Il faut qu'on prenne soin de son partenaire, de la personne qui est à côté de nous, parce que notre vie, elle en dépend et sa vie aussi, elle dépend de la nôtre.
J'en reviens au 5e régiment des tirailleurs marocains. À travers ce spectacle, quelle vision de nos sociétés marocaines et françaises Tarkiz veut-il montrer ?
Vraiment, c'est toujours la même, toujours cette même notion, que c'est vraiment la notion principale du spectacle que je décline sous différents modes, c'est qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui sont engagés ensemble pour une cause, eh bien, on arrive à construire quelque chose et à lutter contre la destruction, contre le mal. C'est un peu c'est étonnant à notre époque de dire, de sourire de ce, de cette notion-là, mais effectivement, c'est quelque chose dont on ne devrait pas avoir à se battre contre les autres, et on devrait avoir à protéger la liberté. Et d'ailleurs, dans les différents témoignages que j'ai pu avoir et les rencontres que j'ai pu avoir dans toute cette histoire, parce que moi, ça fait à peu près 2 ans maintenant que je cherche des traces de cette histoire, y a quelqu'un qui m'a dit 2 choses très importantes, qui est que quand on regarde l'histoire, il ne faut pas oublier de la regarder avec les yeux de l'époque, pour ne pas juger aujourd'hui ce qui a été fait auparavant. Et ça, c'est extrêmement important. Donc c'est pour ça que je veux donner dans ce spectacle certains faits qui sont, voilà, qui sont des faits, c'est réel. Et aujourd'hui, ben, essayer de voir comment on s'approprie cette histoire-là avec notre regard, mais en n'oubliant pas qu'à l'époque, ben, c'était comme ça. Et l'autre chose qui m'a été dite, par la même personne d'ailleurs, qui est le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de Casablanca à l'époque, il m'a dit « la seule finalité à la guerre, ça doit être la paix ». Et effectivement, n'importe quelle personne qui va lutter contre la guerre va lutter pour garantir la liberté et la paix. Parce que sans la paix, sans la liberté, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Il n'y a rien. En temps de guerre, il n'y a rien.
J'insiste un petit peu par rapport à ces valeurs qui nous touchent tous et qui sont effectivement essentielles. Dans votre dossier de présentation, vous expliquez que les valeurs du régiment rejoignent les valeurs du cirque.
Ben, c'est vrai que le cirque, autant l'histoire d'un régiment, beaucoup de monde peut aller chercher. Maintenant, avec Internet, beaucoup de traces restent. Donc, on peut retrouver cette histoire-là. L'art du cirque, c'est un petit crocosme familial presque, même dans des formes contemporaines. Hein. Nous, on recrée un groupe ensemble très fraternel avec l'équipe de Tarkiz, avec les 5 acrobates marocains que j'accompagne et avec qui je travaille pour certains depuis 7 ans et 4 autres, bon, pour Saïd en fait, depuis 7 ans et puis pour les 4 autres depuis 2016. Je les ai recrutés à l'École nationale du cirque Chemsi, accompagnés durant toute leur formation et mis en scène, et maintenant on est sur scène ensemble et dans le même bateau de Tarkiz, et il y a des liens très très forts qui se créent tant dans la pratique que humainement, que presque parfois il m'appelle Baba Guillaume, ce qui veut dire papa en marocain. Wow. Donc il y a des notions effectivement très fortes qui sont naturellement, par l'implication et l'engagement qu'on a dans les arts du cirque, qu'on peut retrouver effectivement dans des histoires qui sont fortes aussi de notre société. Et c'est vrai que l'engagement est quelque chose de très important, sans quoi on n'obtient rien dans nos pratiques et dans nos vies. Comme ces militaires se sont engagés pour une chose, la liberté, et comme nous, dans le cirque, on s'engage pour une chose, la réussite de l'exploit et donner du plaisir aux gens.
Et sur scène, vous qui êtes le metteur en scène de ce spectacle, comment traduisez-vous ces valeurs ?
Concrètement, on n'est pas dans le spectacle, on n'est pas du tout sur un mode narratif linéaire de dire alors à telle date on a fait ci, puis ça, puis ci, puisqu'on parle certes de la guerre, mais aussi de ce qui se passe après, puisque les tirailleurs marocains ont une vie après le régiment, en 1965, la dissolution. Et voilà, il y a plein de gens qui sont restés en France, qui ont fondé des familles, et notre communauté, la communauté issue de l'immigration marocaine, est très très implantée dans notre région, aussi due à cette histoire-là. Dans le spectacle, c'est avant tout un spectacle de cirque populaire, il ne faut pas avoir peur de ce mot, qui se veut être solaire, lumineux, mais dans lequel on raconte aussi des choses très sombres. Et en fait, la narration, elle repose sur ces 5 individus qui sont sur scène et qui ont des boîtes et qui les empilent, ils jouent avec. En ouvrant ces boîtes-là, ils extraient des morceaux de mémoire. Donc tantôt... une insigne, tantôt des vestes, tantôt différents objets. Des fois, c'est un son, des fois, c'est une vidéo. C'est des choses qui nous rappellent à cette mémoire. Et eux s'en emparent et jouent avec en interprétant physiquement les notions qui sont véhiculées par rapport à cet élément de mémoire.
Et la musique ?
Et la musique, bonne question. Donc la musique, c'est un mélange, un remix de la, on va dire, de la tradition marocaine rythmique notamment, pour laquelle j'ai été assisté de Youssef Anagam, qui est un percussionniste marocain, qui était venu en février faire une résidence à Victoire d'Aubier avec nous. Dans cette résidence, il y a une rythmique de son nourri de la tradition marocaine. Après, à tout un travail d'électronique et de fabrication sonore de sons, de machines, avec une espèce de d'électro-tagine, comme j'aime bien dire. Et après, aussi, on a fabriqué avec un certain nombre de personnes des sons, notamment la résidence dont on vient de parler. On avait enregistré... Des collégiens qui étaient en fin de journée épuisés, qui criaient dans tous les sens, et bien finalement on en a fait quelque chose.
Ce spectacle est donc joué par des artistes marocains que vous avez rencontrés à l'école de cirque Chemsi. Ils sont d'ailleurs installés dans une ancienne caserne militaire à Salé, près de Rabat au Maroc. Quel clin d'œil. Comment ces jeunes ont-ils été impliqués dans ce projet ?
Donc l'histoire avec ces jeunes Marocains, c'est en fait lié à ma coopération avec l'École nationale depuis 2009, où j'ai proposé au directeur général Alain Lahiron et à la présidente Toraya Bouhabib de monter un projet de création qui inviterait la pédagogie au sein de son processus et donc de caster 5 apprentis au sein de l'école et de les accompagner durant toute leur formation et au-delà. Par la création d'un spectacle qui évoluerait avec eux pendant toute leur formation. Donc on a fait des premières étapes de travail à partir de 2016, comme ça, et faire évoluer tant le processus par rapport à leurs compétences que ce qu'ils étaient en train de devenir en tant qu'humains, parce que être artiste, c'est vraiment avant tout être humain, et avec ses faiblesses, et notre travail est de renforcer nos forces. Voilà. Et quand est arrivé, donc je vous parle de 2016, et je vous ai dit, ça fait un an et demi, deux ans que je suis sur la recherche sur le 5e régiment de tir marocain. Donc au départ, on n'en parlait pas. On parlait vraiment de valeurs de la pratique et qui finalement se sont regroupées, réunies avec l'histoire au moment où l'histoire est apparue. Et donc en fait, ils ont été, depuis que j'ai commencé à dérouler le fil de cette histoire mémorielle, je les ai impliqués au maximum dans la compréhension de quelle était aussi leur histoire, puisque eux-mêmes, comme toutes les jeunes générations, beaucoup malheureusement ont oublié cette histoire-là. Donc parfois, eux avaient déjà des notions, ils connaissaient des choses, d'autres pas du tout. Mais dès que ça a été possible, on a essayé d'en attraper les clés ensemble. Et notamment en allant rencontrer, comme je disais tout à l'heure, Karim Bouzaoui à l'ONAC, donc à l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Casablanca.
J'imagine que ça a dû résonner de façon très très particulière dans les têtes de ces 5 artistes de cirque qui ne devaient pas du tout imaginer... participer à un spectacle qui allait parler d'histoire franco-marocaine.
Au départ, non, c'était effectivement un projet de création un peu plus abstrait, et puis petit à petit, c'est venu avec cette histoire-là, et en fait, ils s'en sont emparés au fur et à mesure aussi que l'histoire se déroulait, aussi au fur et à mesure que moi je pouvais les nourrir avec les recherches que je faisais, puisque j'ai fait un vrai gros travail mémoriel au niveau de cette histoire.
Est-ce que eux, de leur côté, ont participé ou ont activé un peu ce travail de recherche sur le Maroc ? Alors, ou est-ce que c'est simplement vous ?
De ma volonté pédagogique, je les ai impliqués dès le départ. En les questionnant sur qu'est-ce que représente la guerre pour eux, quelles sont les traces dans leur société maintenant. Et il s'avère que finalement, ils ont forcément un avis sur ce qu'est la guerre et tout ça. Et donc là, on est plutôt d'accord que c'est pas terrible la guerre quand même. Mais donc du coup, voilà, c'était de leur faire... je leur ai montré des films, je leur ai lu on a déchiffré ensemble la lettre du sultan, notamment, qui a été lue dans toutes les médinas en 1939, qui sera d'ailleurs affichée dans une exposition qui retrace aussi différentes traces mémorielles avant le spectacle, dans le hall du théâtre. Pour qui veut chercher plus loin, on essaye de donner le maximum d'outils pour qu'ils puissent le faire. Après, ils sont impliqués dans la réflexion, dans... Il y a aussi notamment par des textes qui sont dits aussi dans le spectacle, qu'eux-mêmes disent en français, un français pas tout à fait impeccable. Mmh. donc voilà, on a travaillé aussi sur des traductions de choses, sur la compréhension de différents éléments qui étaient hyper importants comme point clé de notre narration. Et après, il y a une espèce de magie dans le spectacle qui fait qu'à un moment donné, on a plus besoin de raconter les choses pour qu'elles se vivent elles-mêmes. Et le lien, il se fait aussi beaucoup par rapport à ça. Que les cinq acrobates qui sont dans Tarkiz se sont imprégnés de l'histoire par la transcription des notions développées dans l'histoire et la transcription de l'intemporalité contemporaine, de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on va justement parler de la fraternité, de choses comme ça. Notamment dans l'écriture du spectacle, il y a des moments où j'ai même effacé toute notion guerrière au profit de toute notion coopérative, parce que évidemment on partait de ce point-là, mais finalement d'un point de vue de l'écriture dramaturgique, il était plus important de l'effacer pour faire ressortir réellement la force de cette histoire que d'appuyer dessus en racontant encore que la guerre c'est difficile, etc.
Guillaume Bertrand, merci. Tarkiz sera joué les 7 et 8 novembre à 20h au Théâtre de Bourg. Élodie Gadiolet a rencontré les artistes marocains lors d'une répétition.
Tarkiz, qu'est-ce que ça veut dire ?
Tarkiz, c'est un mot marocain, en fait. Ça veut dire concentration.
Alors, la concentration, l'attention les uns envers les autres, c'est ce qu'il a fallu aux tirailleurs marocains engagés dans l'armée française. À Bourg-en-Bresse, deux régiments étaient installés, le premier et le cinquième. Est-ce que vous aviez entendu parler de ces soldats marocains engagés dans l'armée française ?
Non, mais on a entendu un peu quand on était petit, un peu des gens qui étaient engagés dans la guerre, dans l'Indochine, en France et tout. Mais voilà, on découvre un peu l'histoire avec la compagnie, avec Guillaume, avec nos cinq, quoi. Vraiment, moi, personnellement, je ne connais pas avant.
Mais en fait, on a aussi, j'ai rencontré aussi des amis qui ont des grands-parents qui étaient aussi intégrés dans cette guerre. Et ils étaient parmi les 5e régiment aussi.
Qu'est-ce que vous saviez ? Qu'est-ce qui vous avait raconté ? Est-ce qu'on en parle de cette histoire au Maroc ?
Bah, pas vraiment. Ils ne parlent pas en fait de détails, comment ça a été, mais juste ils disent que j'ai un grand-père qui est parti en fait pour faire la guerre mondiale et tout ça. Donc c'est pas, on parle pas souvent de tout ce qui est détails, comment ça se passe en fait.
Quand même, moi je pense que dans mon enfance il y avait des gens qui racontent un peu l'aventure de la guerre, plus ou moins, parce qu'il y avait des théâtres un peu avec la langue marocaine qui parlent un peu de l'Indochine, ils parlent de la guerre, première guerre et deuxième guerre, et je pense qu'ils parlent un peu des guerriers qui étaient à cette époque-là. Mais vraiment, plus ou moins, c'était bon. Le théâtre, c'était un peu des histoires, aussi des blagues et tout, et aussi l'aventure de la guerre. C'est ça ce que voilà, je retiens là maintenant.
Ça fait pas partie d'une histoire officielle. C'est pas quelque chose qu'on pourrait apprendre à l'école, par exemple.
Non, bah, je pense que quand même, dans notre éducation, on a étudié les premières et les deuxièmes guerres mondiales, mais plus de détails, non. Comme ça, des Marocains qui étaient intégrés, je ne pense pas. Voilà.
Non, parce qu'il n'y avait pas l'histoire, en fait. Ils n'ont pas parlé beaucoup de l'intégration du Marocain dans cette guerre. C'était juste l'histoire de la guerre mondiale en globalité. Donc, ce n'est pas, c'est pas les détails de les Marocains, tout ça. Donc, c'était comme ça dans l'éducation marocaine.
Si on parle de ça, ils ont parlé plus de l'éducation de résistance marocaine que de ça, de régiments qui étaient engagés dans la guerre à cette époque-là.
Comment vous êtes arrivé sur ce spectacle ?
En fait, pour moi, je suis lauréat de l'École nationale de cirque Chemsi. Et en fait, avant que je serais lauréat, il y avait metteur en scène Guillaume Bertrand qui était parmi les intervenants qui viennent à l'école. Et du coup, il a fait une collaboration avec l'école pour faire ce spectacle. Et il a fait un casting pour faire sélectionner des 5 acrobates. Et du coup, heureusement, j'étais parmi les cinq acrobates. Donc, c'est pour ça que je suis là dans ce spectacle. Et je suis content d'être là avec les amis parce qu'on partage beaucoup de choses.
Moi, je viens d'intégrer le spectacle il y a 6 mois, je pense. Ouais. Je viens de remplacer un artiste qui est parti. Moi aussi, j'ai rencontré Guillaume à l'école de cirque au Maroc, à Salé. On a fait pas mal de spectacles quand même. Depuis ma rentrée, j'étais toujours à côté de lui. Depuis longtemps, j'ai travaillé avec Guillaume Bertrand à l'école sur Gin Tonic. Et après, j'étais comme assistant à lui dans Les Traceurs. Aussi, Les Pantins, ici à Théâtre. C'était la première fois que je viens ici au Théâtre de Bourg-en-Bresse en 2015. Dans le spectacle Les Pantins. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et là, pour le spectacle, comment je venais, c'était vraiment un appel de Guillaume et des artistes aussi qu'ils ont me choisir tous, je pense. On dit qu'on veut travailler avec Saïd et voilà, et j'ai accepté la demande et je suis là avec eux. Je suis aussi heureux et ravi de partager cette aventure avec les quatre acrobates, avec Guillaume.
Aujourd'hui, dans le spectacle Tarkiz, vous incarnez les tirailleurs marocains. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce que le public va découvrir sur scène?
Mais du coup, là, nous, on ne parle pas vraiment de la guerre, on parle de la valeur de tout ce qui est dans la guerre. Par exemple, il y a comment eux, ils étaient dans la guerre, comme des amis, un porte l'autre et tout ça. Donc, il va y avoir aussi ça dans la scène, comme valeur, comment ils étaient vraiment durs, solides en travail collectif, tu vois. Genre, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi une scène. Là, le public, il va recevoir des sentiments dans le moment où les tirailleurs marocains quittent le Maroc aussi. Ça donne aussi ce valeur parce que c'est vraiment intéressant. C'est pas vraiment facile de quitter le territoire et venir pour faire la guerre. Donc il y a aussi beaucoup de choses. Il y a aussi des textes qui va mettre les choses en place pour bien comprendre tout ce qu'on voulait dire.
Oui, je pense que le spectateur, elle va découvrir plein de surprises dans le spectacle. Et il y a quand même plein de lectures de spectacles différents. Ça dépend le public aussi. Chacun, il va comprendre l'histoire. Et aussi derrière l'histoire, il y a plein de choses à comprendre, je pense.
Vous êtes des jeunes artistes marocains. Quelle est la tradition du cirque au Maroc?
On n'a pas de tradition de cirque, mais on a une tradition de l'acrobatie traditionnelle. Et oui, le cirque contemporain, là maintenant, ça commence avec l'école de cirque et avec la création de l'école de cirque en 2009. Là, ça commence un peu cette mouvement des artistes de cirque contemporain et aussi l'art de cirque contemporain. On avait les cercles dans la rue, comme ça, mais c'était plus par de l'acrobatie traditionnelle, c'est ça, berbère, des pyramides et tout. Ou des conteurs populaires, on peut dire, qui racontent un peu des histoires des héros marocains ou des histoires, quoi. Et aussi, je pense que là, on est parmi les premiers artistes de ce contemporain et ça se développe grâce à l'école, grâce à nous, grâce à des intervenants qui viennent collaborer et développer le cirque au Maroc aussi. Alors le cirque, je pense, maintenant, ça commence à se développer petit à petit, psuie à psuie, comme on dit en dirigeant.
Comment êtes-vous devenu artiste de cirque?
Donc, comme j'ai dit au début, moi, j'ai rencontré, je savais pas qu'il y avait une école de cirque au Maroc, mais avant, je m'entraîne en fait dans la forêt, dans la rue, je fais de l'acrobatie, de tricks aussi, et par hasard, j'ai rencontré un ami qui m'a dit qu'il va y avoir une casting à l'école nationale de cirque, comme quoi ils ont besoin des traceurs pour le festival de 2014. C'est là que j'ai rencontré en fait Guillaume, comme j'ai dit au début. Et c'est là aussi que j'ai rencontré la vie d'artiste, la vie de cirque. Et j'ai vraiment adoré et c'était vraiment impressionnant pour moi. Et j'ai pris un an pour décider si je vais faire le cirque ou non. Donc c'était pas facile. Et du coup, à la fin, j'ai décidé de faire le cirque. et j'ai fait 3 ans de formation. C'était pas vraiment facile. On apprend beaucoup de choses à l'école et c'est là, en 2018, j'ai devenu artiste de cirque marocain.
Professionnel. oui, je reviens juste sur le mot. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. Le mot traceur, ça vient de pratiquants de parcours. Les gens qui font le parcours et l'art de déplacement. Alors pour moi, c'est un peu lent, mais je vais essayer de raccourcir. J'ai commencé aussi dans la rue, les plages de Casablanca, le parcours. Après, j'ai intégré un groupe qui s'appelle Accroche-toi. Au Maroc, de parcours. On a fait des films, des cascades, des figurants dans des films, des publicités. Et après, on a créé une association marocaine de parcours. Et on a essayé de travailler avec cette association en donnant des ateliers et tout. Et après, j'ai décidé, soit je finis mes études après le bac et je ne sais pas quoi faire, soit c'est ça ce que je vais être artiste et je vais faire ça. J'ai fait le casting, on était 100, on était à la fin sélectionné 15. J'étais très content de faire cette école. J'ai fait quand même 3 ans. J'ai eu un diplôme d'artiste de cirque interprète et là depuis 2014 jusqu'à maintenant je suis artiste de cirque professionnel, je développe au Maroc le cirque contemporain et je travaille ici avec 2 compagnies ici en France.
Qu'est-ce qui est essentiel pour faire des acrobaties?
Bah ça dépend, on parle de spécialité et tout. Je pense que je sais pas, pour intégrer des écoles et tout, comment on dit le mot en français là, il exige l'âge et tout, mais je pense que là c'est pas un frein c'est, il faut un peu de souplesse, je pense, un peu beaucoup de volonté, la volonté vraiment d'apprendre, de faire de cirque et tout, et un peu de courage aussi. Et ouais, je pense que c'est, il faut la volonté quoi. Même on a, moi je connais des gens, des amis qui ont commencé à 35 ans le parcours, l'acrobatie et tout. Alors je pense que c'est pas toujours trop tard à commencer le cirque ou l'acrobatie.
Je crois que c'est un bon acrobate, c'est-à-dire pas que tu es un bon artiste de cirque, mais en parallèle, ça aide en fait, si tu es un acrobate, ça aide en fait dans ton carrière et tout ça, donc c'est bien d'être acrobate et artiste aussi.
Ouais, c'est d'être courageux et, comment on dit, l'amour de ce que tu veux faire vraiment. C'est, si j'aime bien ce que j'ai fait, bah je vais aller quoi.
Karim et Saïd, 2 interprètes du spectacle Tarkiz, des propos recueillis ce lundi au Théâtre de Bourg en compagnie d'Alexis, en partenariat avec l'UAJ de Bourg-en-Bresse. Merci à Théophile à la technique et merci à Catherine Léger pour l'interview de Guillaume Bertrand.
Tarkiz que vous pourrez découvrir au Théâtre de Bourg mercredi 7 et jeudi 8 novembre à 20h.
Au bout du petit matin, une autre petite maison qui sent très mauvais, dans une rue très étroite. Une maison minuscule qui abrite en ses entrailles de bois pourri des dizaines de rats et la turbulence de mes 6 frères et sœurs. Une petite maison cruelle dont l'intransigeance affole nos fins de mois et mon père, fantasque, grignoté d'une seule misère, je n'ai jamais su laquelle, qu'une imprévisible sorcellerie assoupie en mélancolique tendresse ou exalte haute flamme de colère. Et ma mère dont les jambes pour notre faim à la sable pédale, pédale de jour, de nuit. Je suis même réveillé la nuit par ses jambes inlassables qui pédalent dans la nuit et la morsure âpre dans la chair molle de la nuit d'une singère que ma mère pédale, pédale pour notre faim et de jour et de nuit et de jour et de nuit.
Partir.
Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas, l'homme famine, l'homme insulte, l'homme torture, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Je retrouverai le secret des grandes communications et des grandes combustions, et qui ne me comprendrait pas, ne comprendrait pas davantage le rugissement du tigre.
Le texte que l'on vient d'entendre, c'est Cahiers d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. La voix, c'est celle de Marc Namour, artiste associé aux scènes du Jura. Et le riff de guitare, c'est Serge Tessoguet, le guitariste par excellence. Ils sont accompagnés de Cyril Bilbo à la batterie. Le spectacle s'appelle « Debout dans les cordages ». Il est sous-titré « Concert littéraire ». Il était programmé mi-octobre sur les scènes du Jura. Alors si comme moi, vous n'avez jamais lu Césaire, mais en avez beaucoup entendu parler, voici quelques infos sur le spectacle. Cahiers d'un retour au pays natal, c'est un poème d'une quarantaine de pages écrit par Aimé Césaire à son retour en Martinique. Ici, il dénonce les conditions de vie des Noirs sur l'île. Aussi appelé le chantre de la négritude, Aimé Césaire devient un poète majeur du XXe siècle grâce à ce poème relayé par le surréaliste André Breton. La négritude, c'est ce courant littéraire et politique composé d'intellectuels noirs qui se réunissent pour dénoncer le colonialisme. Marc Namour lit ce texte sur scène, il le revendique comme un texte puissant et contemporain. L'art et la politique se mélangent. Le rappeur Marc Namour a fait ce choix de proposer des œuvres émancipatrices et revendicatives. Un de ses projets précédents, Nous sommes tous des 99, mettait en lumière le département 99.
Ça existe ça, le département 99 ?
Oui, il existe bien, Marc Namour.
C'est un chiffre qui m'a interpellé depuis que je suis arrivé en France en 1986, puisque ma mère m'avait dit, en gros, voilà, j'avais 8 ans, si on te demande ton département d'origine pour remplir un formulaire administratif à l'école, eh ben tu mets 99. Donc j'étais persuadé que mon département d'origine était 99. Quand en 6e on étudie tous les départements, du coup avec la prof de géo, il y avait toujours un petit peu de bruit histoire de marquer en gros son appartenance à ce département. Et donc moi je me suis dit, bah voilà. Bon, pas de chance, je suis le dernier, mais je vais attendre d'arriver à 99 pour moi aussi marquer. Bon, hey, moi aussi. On arrive à 98 et là, bon, terminé. Et je fais, ben, madame, là, vous oubliez un département, là, non ? 99, ça fait 3 ans que je suis en train de noter sur tous les formulaires administratifs département d'origine 99. Elle me dit, ben non, ça n'existe pas, 99. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bref, ça c'était une petite anecdote en gros de mon enfance et donc c'est là que j'ai compris que c'était juste un département administratif pour les ressortissants qui ne sont pas nés en France, en gros. C'est ça que ça concerne en gros, tous ceux qui ne sont pas nés en France et qui travaillent en France. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai pris ce prétexte en gros de souvenir d'enfance pour parler d'identité à un moment donné où je trouvais que le débat sur l'identité était un peu nauséabond. Je m'explique, c'est-à-dire que si à un moment donné j'ai senti que voilà, la France, enfin en tout cas le gouvernement français ou les élus, revendiquaient voilà, une identité française, on va dire, blanche, de droite, hétérosexuelle, catholique, si c'est ça l'identité française, je n'en suis pas.
L'identité nationale, la place des uns et des autres dans la société, dans la République, ce sont les thèmes qui reviennent dans la musique de Marc Namour. Avec son groupe La Canaille, il en a même fait un titre, Jamais National.
Mais écoute-là, cette voix dégueulée sur les ondes. Cette voix venue tout droit du territoire des ombres. Cette voix immonde qui prend du poids et des galons. Qui sait comment se faire mielleuse pour séduire dans les salons. Cette voix aux multiples gorges qui se décharge. Habitée d'une haine si virulente qu'elle en ébarge. Du cadre à l'ouvrier jusqu'au commissaire. Cette langue de vipère s'accommode très bien de la misère. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Non pas question de garder le silence, cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Ici ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation, comment rester les bras croisés. Cette voix c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal, mon identité ne sera jamais nationale.
Marc Namour, chanteur de La Canaille, est artiste associé des scènes du Jura. Il présentait Debout dans les cordages il y a quelques semaines. Trop tard donc pour aller voir ce spectacle, mais on est sûr qu'il va tourner dans les parages. On vous tiendra informés. En janvier, Marc Namour rencontrera Loïc Lantoine, un moment fort vu les personnalités des deux artistes.
À coup sûr, oui.
Une découverte programmée le samedi 15 janvier au théâtre de Lons-le-Saunier, à noter dans vos agendas flambant neufs. C'est la fin de cette émission. Merci Michel.
Merci Elodie.
Merci à Théophile à la réalisation. Restez branchés sur Radio B. Tout de suite, le retour de la musique.
J'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette fois, c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Cette voix n'a pas de couleur, comme la connerie ou l'ignorance. Elle puise sa force dans la douleur, l'humiliation et les offenses. C'est l'éloquence pour nous monter les uns contre les autres. Elle te rabâche en continu qu'il y a l'étranger et il y a les nôtres. Mon identité, elle est plurielle, elle est changeante. Et heureusement, elle n'hésite pas à prendre la tangente. Elle s'inspire de toute culture, s'inspire de toute étoile. Elle a les bras ouvert et considère tout homme à son égal. Mais cette voix veut me tirer vers le fond. C'est cette voix encore une fois que je combats sans rémission. Dressée contre son ordre, contre sa morale, mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Et si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette fois, c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. N'hésitons pas à le répéter. L'heure est grave, l'état d'urgence est décrété. Donc pas question de garder le silence. Cette voix revient comme un cauchemar, diaboliser nos différences. Et si ça pue, j'ai la nausée, une profonde indignation. Comment rester les bras croisés? Cette voix, c'est le poison qui tourne en rond dans son bocal. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale. Jamais nationale, jamais, jamais nationale. Mon identité ne sera jamais nationale.